Read. Amen.
Oui, vous allez bien? Il y a quelqu'un qui me suit, c'est mon adjointe. Je viens de l'engager officiellement cette semaine. Fait qu'elle va partager un petit quelque chose avant qu'on aille plus loin.
Bonjour à tous.
As-tu un micro? Voilà. Je pense que ça va. Voilà.
Je commence en français et là, après, je fais le switch. Je commence en français. Le Seigneur me pousse de plus en plus. C'est correct?
Allez-y.
Oui,
vas-y.
Oui, j'arrive.
Jusqu'au
ça s'en vient.
Jusqu'au
et
bout.
Le papa aussi me pousse, alors c'est correct. La grosse joke, c'est que cette semaine, je vais faire une entrevue juste en français à une place complètement acadienne. Alors...
Maison du repos?
Oui, maison
du repos.
J'ai oublié le nom. Je suis infirmière, alors je regarde tout partout. Alors, une place qui m'ont rappelé. Alors, c'est très intéressant. Le Seigneur veut vraiment que m'utiliser plus en français. J'ai dit, OK, Seigneur, on y va. Que ta volonté soit faite. Amen. Même si on ne sait pas ce qu'on fait, c'est correct. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Alors, j'aimerais juste commencer, continuer en français, juste un petit peu, en remerciant toute l'équipe musicale ce matin.
Oui.
Merci tellement pour le temps que vous avez passé avec le Seigneur, parce que c'est évident que vous avez bien préparé et que vous êtes avec lui avant que ça commence ce matin. C'est évident. On a vraiment... ressenti la présence du Seigneur ce matin et je dis merci tellement. Merci pour votre travail, vos efforts. Je suis très reconnaissante. Amen. Mm. Puis le Seigneur encore plus.
Amen.
Alors, merci tellement. Amen. C'est encourageant. Et un verset qui me vient à l'esprit, et je le connais juste en anglais, « Where the Spirit of the Lord lives,
oui, l'Esprit du Seigneur.
There is freedom,
il y a une liberté,
and there is liberty. »
Et une espèce de liberté.
Alors, c'est vraiment ça qu'on a ressenti ce matin. La présence du Seigneur.
Yes,
la présence.
Amen.
Et freedom.
Oui, liberté,
en tout cas,
oui.
On a vraiment ressenti ça parce que je voulais sauter sur les charges, je voulais crier, j'ai dit, Seigneur, merci pour ta présence. Merci tellement pour ta présence.
Oui.
Hallelujah, Jésus.
Amen,
amen. Amen. Et le verset qui m'est venu beaucoup à l'esprit hier soir, qui m'est venu à l'esprit, je ne peux pas dire je ne le connais pas en français. OK, donne-moi 2 secondes. Oui, c'est ça. Il va falloir que je le dise en anglais. Et c'est retrouvé, what am I doing? It's found in 2 Corinthians 10.
C'est 2 Corinthiens.
Yes, and this is what it says.
Voilà ce que ça dit.
Inasmuch we refute every argument,
et on a refusé toute argumentation,
and theory and reasoning,
et la théorie, le raisonnement,
and we take every thought captive,
et nous amenons toute pensée captive,
and lead it to bow down,
et on se genouille,
to the obedience of Christ Jesus,
à l'obéissance de Jésus-Christ,
our Messiah,
notre Messie.
And often when we're walking with the Lord, as believers,
et souvent quand on marche avec le Seigneur en tant que croyant,
there's many things that come to us in our spirit, in our mind.
Il y a beaucoup de choses qui viennent à nous dans notre esprit, dans notre cerveau.
And in our thoughts.
Dans nos pensées.
And we don't refute it.
Et on ne refuse pas.
Often the things that come in.
Souvent les choses qui entrent
are not even our thoughts,
ne sont même pas nos pensées,
but they're from the enemy.
Mais ce sont des pensées de l'ennemi.
And we just accept it.
Et on l'accepte.
And we just go with it.
Et on va avec ça.
And we just believe it.
Et on le croit.
And the Lord, I believe the Lord is challenging us this morning.
Et ce matin, le Seigneur nous lance un défi.
And saying, what are you doing?
Et il dit, qu'est-ce que vous faites?
What are you letting in?
Qu'est-ce que vous laissez entrer?
What are you entertaining?
Qu'est-ce que vous entretenez?
In your thoughts.
Dans vos pensées.
In your minds.
Dans votre pensée.
What are you meditating on?
C'est quoi ce que vous méditez là?
Is it aligning with my thoughts?
Est-ce que c'est aligné avec mes pensées?
Is it aligning with my word?
Est-ce que ça s'aligne avec ma parole?
Is it who I am?
Est-ce que c'est qui je suis?
Is it who I say you are?
Est-ce que c'est ce que moi je dis que qui tu es toi?
And I believe as believers, sometimes we're living in such defeat.
Et je crois qu'en tant que croyant, on vit tellement souvent dans la défaite.
And this, oh well.
Et puis on dit, eh bien,
this is how it is.
C'est de même que ça marche.
Oh, this is how it'll be.
Et ça va être comme ça, quoi.
Maybe God is punishing me.
Peut-être le Seigneur me punit.
Stop.
Arrêtez.
Stop.
Arrêtez.
Stop.
Arrêtez.
I believe the Lord's saying, stop.
Moi, je crois que le Seigneur dit, arrête.
What am I saying?
Qu'est-ce que je dis?
What am I really saying about you and to you?
Qu'est-ce que je dis vraiment?
Am I not the God
over
toi? Everything?
C'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses.
Am I not able to do exceedingly and abundantly?
Ne suis-je pas capable de faire au-delà de
ce que tu peux
penser ou penser?
More than you can ask for?
Penser,
more than you can dream of?
Demander,
more than you can imagine?
Plus que tu peux imaginer,
according to my power,
selon ma puissance,
that is at work within you,
qui agit en vous,
is my power not at work within your life?
Est-ce que ma puissance n'est pas suffisante pour travailler
dans
ta vie?
Am I not alive and active right now?
Ne suis-je pas actif dans votre vie présentement?
Can you not trust me?
Est-ce que tu peux me faire confiance?
With what I am doing right now,
avec ce que je fais présentement,
in your life,
dans votre vie.
Do you trust me?
Est-ce que vous me faites confiance?
Oh, I hate that question.
Oh, je déteste cette question.
How many times has he said that to me?
Combien de fois il m'a posé cette même
question?
And
I'm like, no, no, no.
Et je dis non, Seigneur.
Don't ask me again, Lord.
Ne me posez pas cette question,
to trust
Seigneur.
You. Because that pushes every button in me.
Parce que ça touche à tous les pitons dans ma vie.
And then I come to the point.
Et j'arrive à un point.
And I reflect on all that he has done in my life.
Et je pense à tout ce qu'il a fait dans ma vie.
And I say, Holy Spirit,
et je dis, Esprit Saint,
bring back to memory.
Ramène à ma mémoire.
Your goodness and your faithfulness.
Votre bonté et votre fidélité.
You have never forsaken me.
Tu m'as jamais abandonné.
You have never left me.
Tu m'as jamais délaissé.
And you never will.
Et tu ne le feras jamais.
Because you are good.
Parce que tu es bon.
So Holy Spirit, as I keep my gaze and my focus on you.
Seigneur, je garde mes jours et mon focus sur toi.
You are trustable. That's not the right way.
On peut te faire confiance.
But I can trust you.
Mais je peux te faire confiance.
Because you are with me.
Parce que tu es avec moi.
And once again, you will never leave me.
Et encore une fois, Seigneur, tu me délaisseras jamais.
You will never forsake me.
Tu vas rester proche de
moi. Because you are a good, good, good daddy.
Parce que vous êtes un papa qui est très bon.
And you take care of your kids.
Et tu prends soin de tes enfants.
Boy or girl.
Que ce garçon ou fille.
He doesn't care. I mean, he cares about you. He cares about you, but it doesn't matter if you're a man or a woman. He loves you the same. And his plans and purposes for your life are good.
Et ses buts, ses objectifs pour votre vie sont bons.
Plans to prosper you, not to harm you.
Les plans pour te faire prospérer.
Plans to give you hope and a future.
Oui, un plan pour te donner un avenir puis une espérance.
So thank you, Father.
Donc, merci, Père,
for your faithfulness to your children.
Pour ta fidélité à tes enfants.
We abide in you.
Seigneur, on demeure en toi.
And we love you, God.
Et nous t'aimons.
And we trust you, Jesus.
Et nous te faisons confiance.
Our hope is in you.
Notre espérance est en
in
toi.
In your name we pray, Lord.
Dans ton nom,
Jesus
je prie.
Name.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Je pense que je vous ai dit, c'est ma fille. Hein? Amen. Amen. D'accord. Gloire à Dieu. Amen. 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 Mais c'est ça, l'esprit, justement, on a ressenti l'esprit dans la louange ce matin. Et quand on est dans sa présence, il y a une espèce d'ouverture qui se fait. Et plus qu'on est dans sa présence, plus qu'on est libre dans sa présence, et plus que l'Esprit Saint nous envahit. Et justement, Mireille disait là, il nous aligne. Moi, j'ai besoin d'être aligné assez souvent, et vous? On a besoin d'être dans sa présence, parce que si je fais ça juste selon Greg Pine, ça ne va pas bien loin. Mais quand je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, et Seigneur, mes pensées, j'en suis déjà fatigué. Donc, le Seigneur, en ce moment, on s'humilie devant le Seigneur, on est réceptif, et l'Esprit Saint vient. Aussi simple que cela, mais ça prend cela. Amen. Merci beaucoup, Mireille, et que le Seigneur vous bénisse tous abondamment. Nous allons regarder maintenant, en ce moment, Matthieu 27. Matthieu 27, et c'est le verset 21. Je réalise que ce dimanche, ce n'est pas dimanche de Pâques, mais je crois que c'est toujours dimanche de Pâques, fait que mon texte, c'est pour le dimanche de Pâques. Êtes-vous là?
Oui.
OK, vous n'avez pas démissionné. Matthieu 27, et ce matin, nous voulons, avec l'aide du Seigneur, regarder ce que le Seigneur a fait pour nous physiquement, ce qu'il a fait pour nous spirituellement, et nous voulons que le Seigneur, Pasteur Fern a mentionné de renouveler. Vous savez, on est renouvelé selon sa parole, selon sa pensée, selon ce que lui, il pense. Et je prie ce matin que l'Esprit Saint nous touche et nous touche de nouveau concernant ce fait que nous connaissons très bien, mais que le Seigneur va même encore un travail de profondeur dans notre cœur, dans notre intelligence ce matin, pour qu'on puisse l'aimer davantage, le connaître davantage, le servir davantage. Matthieu 27 et 21. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, c'est Pilate, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains et en présence de la famille, de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines et ils le posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Seigneur, en ce moment, ce matin, nous courbons nos cœurs, nos esprits devant toi, aussi bien que toute la famille. Et on te demande de toucher nos yeux, toucher nos cœurs, toucher nos corps, Seigneur. Nous avons besoin de voir, de comprendre et de mettre tout notre poids, notre confiance en toi, dans ce que tu as fait pour nous. Merci, Jésus. Éternellement, merci pour ton œuvre. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Ce chapitre que nous venons de lire, et puis on en a d'autres, nous informe, nous renseigne sur la crucifixion de Jésus-Christ ou qui s'en vient, la préparation pour cela. Mais ce récit est beaucoup plus que cela parce que nous devons l'approcher avec une tendresse, avec même la crainte de Dieu. Et aussi, ça nous amène à l'amour, ça nous amène à une gratitude et même à vouloir adorer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et ce matin, nous voulons recevoir de la lumière. Nous voulons recevoir de la profondeur de ce que le Seigneur a fait pour vous et moi. Parce que ce que nous lisons ici, le but de tout cela, imaginez-vous, c'est vous et moi. Il y a beaucoup de personnages dans cette histoire. Il y a Pilate. Vous pouvez imaginer le temps de Pâques à Jérusalem. Ça venait de partout. C'était toujours subjugué par l'Empire romain. Il y avait des soldats partout, puis ils essayaient de garder une certaine paix. Il y avait la classe religieuse qui était en sédition, toutes sortes de plans de tuer, de faire mourir Jésus-Christ parce qu'il détestait. Fait qu'il y avait vraiment une opposition, il y avait une guerre, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, beaucoup de nombreux éléments en mouvement, ça bougeait beaucoup. Mais c'était, entre autres, un temps vraiment où le temps et l'éternité s'affrontaient. La résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas juste un détail dans les bouquins. C'est le centre de l'histoire. Tout est avant Jésus-Christ et tout est après Jésus-Christ. Le temps, notre temps est mesuré avec ce phénomène Jésus-Christ. Donc, c'est quand même le temps et l'éternité qui s'affrontent. C'était le plan éternel de Dieu qui s'exécute devant nous et la plupart des gens ne le savaient pas. Ça n'a rien changé, n'est-ce pas? C'est toujours pareil. C'était aussi un temps où la vérité et les ténèbres font face. Jésus dit, « Je suis la vérité. » Dieu est vérité et véritable. Et c'était en ce moment que la vérité et les ténèbres, les forces de ténèbres ont fait face. C'était aussi où le plan éternel de Dieu a été mis en exécution, a été manifesté. Imaginez-vous, le salut de l'être humain, de l'humanité, a été manifesté dans une chose atroce, faible. Et qui aurait cru, dit le prophète? Mais c'était justement en ce moment où Dieu a manifesté le salut, votre salut éternel et la mienne. C'est ici, en ce lieu, où l'amour et la haine s'expriment pleinement. C'est en ce lieu où deux royaumes se manifestent, le royaume de ténèbres et le royaume de lumière, le royaume de Dieu et le royaume de l'ennemi. Et ça s'est manifesté là en ce moment. Dans le verset 21, Pilate était là, il ne savait plus quoi faire avec Jésus-Christ. Il savait dans le profond de son cœur qu'il était juste, qu'il n'avait rien fait. Et vous vous souvenez, Pilate, quand il était devant Jésus, il lui a demandé, « Mais c'est quoi la vérité? » S'il avait voulu savoir, la vérité était devant lui. Et si ça méritait une réponse, Jésus aurait donné une réponse. Mais c'était, « Ah, c'est quoi la vérité? » C'est ce que tout le monde fait présentement. « Ah, c'est quoi la vérité? » La vérité, c'est ce qu'on fait de nous autres mêmes, ce qu'on croit. C'est ça la vérité. Et c'est toujours la question, c'est quoi la vérité? La vérité, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie. La vérité se trouve dans la personne de Jésus-Christ, point. Il dit, « Je suis la vérité. Je suis la voie. » Je suis le chemin. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous le savons. Pourquoi? Parce que nous avons goûté. La vérité nous a saisis. La Bible dit, nous sommes nés de la vérité. N'est-ce pas? C'est merveilleux. C'est l'œuvre du Christ à cause du calvaire, à cause de la croix, à cause de son sacrifice. Il nous a donné tout cela. Et merci Seigneur, nous savons, même aujourd'hui, là où nous sommes, on n'est pas parfait en nous, mais on est en Jésus-Christ, donc nous sommes parfaits. Et nous visons cette justice-là, nous visons cette style de vie-là, de vie correcte devant le Seigneur, de lui plaire plus que toute autre chose. Même jusqu'à un tel point que nous ne voulons plus nous plaire. Nous voulons justement ramasser nos pensées, que nos pensées s'alignent avec sa pensée. On va aussi loin que cela. Oui, nous sommes vraiment au Seigneur. Donc, Pilate est là, il ne sait plus quoi faire. Et vous savez, chaque personne, chaque être humain est appelé et doit de nécessité faire un choix concernant Jésus-Christ. Pilate, il a essayé, il dit, écoute, il n'a rien fait. Il a essayé de raisonner. Il dit, qui est-ce que je vais vous relâcher? Et Barabbas. Ils ont pris un mauvais criminel, pour Jésus qui n'a rien fait. Mais on sait que c'était dans le plan de Dieu. On sait que Dieu orchestrait toute la chose. Ce n'était pas un addon, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la faute des Romains, ce n'est pas la faute des Juifs, c'est notre faute. Il a pris sur lui notre faute. C'était un rendez-vous divin que Dieu avait pour toute l'humanité il y a 2000 ans. C'était pour nous racheter. C'était pour nous sauver, ceux avant Jésus-Christ et ceux après Jésus-Christ. C'est lui le centre de tout, c'est lui le centre. Et dans Éphésiens, ils disent que même le temps va être résumé un jour en lui. Il va résumer toute chose, en bas, en haut et ici sur cette terre. Voilà ce qu'ils vont faire, ce que le plan de Dieu en Jésus-Christ. Pilate, encore une fois, il a fait un geste, il est allé devant le monde, les gens qui criaient « Crucifie-le », la haine, l'énergie, la haine, ils voulaient qu'il meure, ils voulaient qu'il meure, c'était dans leur cœur, mais c'était le temps de Dieu aussi. Et Pilate, pour se justifier, pour s'éloigner, pour ne pas prendre une décision, il a lavé ses mains devant la foule, il dit, ça vous regarde. Moi, je suis innocent. Je m'excuse, Pilate, tu n'es pas innocent. Tu es impliqué et tu as voté. On vote demain. En passant. Donc, Pilate, il a dû s'éloigner de toute culpabilité, de tout sens de responsabilité. Et vous savez, chaque personne doit rendre compte, chaque personne doit, Jésus, bon, non, il est bon, mais je veux pas, je m'engage pas. Tu l'as rejeté en ce moment. Parce que Jésus, c'est pas quelqu'un qui a dit, je vais y penser peut-être un jour. Jésus, la Bible dit que c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est le jour du salut maintenant. Êtes-vous heureux pour ce jour où vous avez dit oui à Jésus-Christ? Nous sommes bénis parce que nous avons compris, le Seigneur nous a touchés par sa grâce et on a compris, c'est lui le sauveur, c'est pas moi, c'est pas le monde, c'est lui et on a mis toute notre foi, la foi qu'il nous a donnée, on l'a mis en Jésus-Christ et la transaction a été finalisée. Sauvé. Sauvé pour l'éternité. Sauvé complètement. Et on ne regarde pas nous autres même, est-ce que je suis assez bon? Non, tu n'es pas assez bon, tu ne seras jamais assez bon. Mais lui est assez bon. Et son sacrifice est suffisant. Tu n'as rien à ajouter à cela. Si vous essayez par vos propres moyens d'être meilleur pour que Dieu t'accepte, vous êtes sous la loi. Tout simplement. Mais quand on réalise la grâce de Dieu, c'est donné, c'est pelleté, c'est donné gratuitement. Oh, le Seigneur est merveilleux. Là, je suis à côté, mais je suis pleinement dedans en même temps. Alléluia. Donc, Pilate, il a essayé par tous les moyens de s'éloigner de la culpabilité, mais quelqu'un a dit, enfin, c'est juste d'imagination, il dit, je vois Pilate pendant l'éternité, éloigné de Dieu, en train de se laver ses mains éternellement. Ça, c'est son imagination. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est que quand on est éloigné de Dieu, on n'accepte pas son sacrifice, on n'accepte pas ce qu'il a fait pour nous, on est dans une éternité quelque part. Et moi, je pense, quand la Bible dit que ça ronge, moi, je pense que c'est la pensée. Moi, je pense que c'est ça, un peu, mais un peu beaucoup l'enfer. J'aurais dû. Hein? N'est-ce pas? La parabole de Jésus-Christ, ceux qui étaient en enfer, il dit, va annoncer à mes frères de ne pas venir à cette place. Hein? Enfin, c'est la Bible nous donne, n'est-ce pas, les fenêtres ouvertes de voir certaines choses. Et c'est pour ça qu'on se base sur la parole et non pas ma pensée ni la pensée d'un autre. C'est pour ça, enfants de Dieu, il faut se plonger dans la parole. Ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas nos sentiments, c'est vraiment de s'enraciner dans ce que la Bible dit, de se lier à ce que Dieu dit et de remercier Dieu pour sa parole. Et Seigneur, je mets ça en pratique. Merci pour ta parole. Donc, Pilate, il a essayé par toutes sortes de moyens. Et la Bible dit qu'après cela, il a fouetté, parce que c'est ça que ça dit dans d'autres versions, il a scourged en anglais, c'est qu'ils ont pris un fouet romain avec 9 morceaux, tiges de cuir, avec de l'os et les morceaux de métal autour, et voilà ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Il paraît que c'était cruel au-delà de ce qu'on peut penser. Le dos devenait comme de la viande crue. Tellement il frappait, tellement il ôtait les morceaux de chair. Et ils disent que souvent les Romains faisaient cela juste avant la crucifixion, pour préparer. C'était les préliminaires. Et il y avait beaucoup de gens, les criminels, qui ne réussissaient pas à survivre, à vivre au-delà de cela. Ils mouraient là. Fait que Jésus était là, il a vécu tout cela, et maintenant, c'est vraiment la chose la plus cruelle que vous pouvez imaginer. C'est Jésus qui doit être crucifié. Jésus aurait pu choisir une autre mort. Ça aurait pu être autre chose, Dieu aurait pu avoir d'autres choses. Mais la crucifixion, c'était la mort la plus atroce, le plus long et le plus difficile. Et les Romains ont perfectionné cela. Ça a commencé avec les Perses. Savez-vous qui c'est les Perses? C'est l'Iran. Il y a des choses qui ne changent pas. C'est l'Iran qui a commencé cela. Les Romains l'ont pris et ils l'ont installé comme l'exécution officielle de l'État ou de l'Empire romain. Et puis, dans le temps de Jésus, il y aurait eu beaucoup de croix, beaucoup de gens. Si les gens protestaient contre Rome, si les gens ne suivaient pas les règlements de la loi, eh bien, c'était des affiches publicitaires. C'était des gens qui mouraient tout le temps. Et Dieu a pris le choix que son fils soit qu'il meure avec des criminels, qu'il soit torturé, ni plus ni moins. Et un docteur américain a fait un écrit concernant la mort de Jésus-Christ, comment ça se faisait, c'était en 1986, un docteur Edwards. Et il dit que finalement, sur la croix de Jésus-Christ, de la façon qu'il était évidemment cloué, c'est soit dans les mains ici ou ici, parce que les Juifs disent que ça aussi c'est la main, la façon qu'il était cloué là, que ça aurait fait une douleur comme les éclairs dans ses bras. Et on sait qu'il était cloué de ses pieds à la croix, à une certaine position. Et de la façon qu'il était positionné sur la croix, ça faisait une pression constamment sur ses poumons. Et il pouvait inspirer, est-ce qu'on dit inspirer? Respirer, mais il avait les prisonniers, les crucifiés avaient de la difficulté à exhaler. Et donc Jésus, quand il était là, on ne pouvait pas imaginer la douleur. Et c'était constamment, il se tordait de douleur. Et il fallait de respirer, était difficile. Et chaque fois qu'il respirait, il fallait qu'il se lève avec ses pieds et avec ses bras. Fait encore de la douleur. Et donc, il faisait ça pendant des heures. Et là, on voit que les soldats, à un certain moment donné, avec la cédule, il faut que bon, ça soit fini. Là. Mais c'était pendant des heures comme cela. Et c'est pour ça aussi que la Bible dit que les soldats venaient pour briser les jambes de ceux qui étaient là pour qu'ils ne puissent plus se lever et ils mouraient avec la suffocation. Mais la Bible dit, Jean, en faisant référence à cela, l'apôtre Jean, il dit que bon, pour que l'Écriture soit accomplie, Jésus, il est mort. Et la Bible dit, il a rendu son esprit. Fait qu'il n'est même pas mort de la suffocation, là. Il est mort parce qu'il a rendu son esprit. Jésus dit, il n'y a personne qui prend ma vie. Je la donne. Je la donne. Et ici, quand les soldats sont venus, ils ont vu que Jésus avait déjà rendu l'esprit et ils n'ont pas brisé ses jambes. Et la prophétie, un autre, il y a bien des prophéties, mais une autre prophétie a été accompli concernant Jésus-Christ. Et que nous pouvons bénir le Seigneur pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Puis une autre douleur, souvent, et puis souvent, on ne souligne pas ces choses-là, et puis on ne veut pas dramatiser ou sensationnaliser cela. Mais enfant de Dieu, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est ce que le Seigneur a vécu, subi pour vous et moi. C'était ça le prix, c'était pour cela. Mais il y a une autre physique douleur que Jésus a souffert aussi, puis nous voulons pencher les regards, les yeux sur cela. C'était la bataille probablement la plus féroce, même que la croix, d'une autre façon, d'une autre manière. C'était quand il était dans le jardin de Gethsémané. Gethsémané veut dire « pressoir d'huile », les olives. C'était l'endroit où il y avait une pression. Laissez-moi vous dire une chose. Dans le jardin de Gethsémané, il y avait une pression énorme sur le Seigneur. Laissez-moi vous dire ceci, c'est que c'était dans le jardin que cela avait été gagné la bataille. Des fois, c'est dans votre Gethsémané, votre temps de pression, votre temps de difficulté, quand tout est noir, que la bataille est gagnée. C'est quand vous cédez. Parce que Jésus, ici, là, il s'est donné corps, âme et esprit une fois pour toutes. Il dit, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il a prié trois fois la même chose, mais il dit toutefois, « Que ta volonté soit faite. » C'est là que vraiment il s'est donné, c'était même plus que la croix. Enfin, je ne minimise pas cela, mais c'est là qu'il s'est donné à Jésus-Christ. Et puis, dans votre vie, dans notre vie, c'est le moment où dit Seigneur, j'en peux plus, je ne comprends plus rien. Mais Seigneur, je me donne à toi. Je marche, je mets un pied avant l'autre, même si je ne vois pas, Seigneur, le chemin, ta parole est une lampe à mes pieds. Et Seigneur, je manifeste ma confiance en toi. Et le Seigneur nous fait sortir victorieux. Le Seigneur nous fait sortir avec une connaissance renouvelée, avec une foi renouvelée et avec un bon témoignage. Pour avoir un témoignage, il faut aller à travers les choses, enfants de Dieu, n'est-ce pas? Fait qu'on n'est pas des faibles. On n'arrête pas pour des petites choses. On va de l'avant. Le Seigneur nous a sauvés pour l'éternité. Et ici-bas, on a le privilège de mettre en relief, de glorifier le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand les gens disent, mais comment se fait-il que tu es debout? C'est grâce soit rendue à Jésus-Christ. Et on témoigne le Seigneur. On dit au Seigneur ce qu'il a fait pour nous. On élève le nom de Jésus. On n'élève pas une religion. On ne relève pas, imaginez-vous, on ne relève pas, même nous autres mêmes, regarde-moi. On relève le Seigneur, on lève bien haut le Seigneur, son œuvre, ce qu'il a fait pour nous, et il n'a pas changé et il ne changera pas même cette semaine, enfant de Dieu. Il est toujours le même, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dites-vous Amen. S'il n'avait pas dit Amen, j'aurais sorti en bas. Des fois, il est temps de dire Amen. Oui, je suis d'accord avec le Seigneur, je suis d'accord avec lui. Donc, la douleur que le Seigneur, on peut imaginer, on a de la difficulté, mais avec l'aide du Seigneur, avec surtout les Écritures. Matthieu 26, 38 dit ceci. Il leur dit alors Jésus, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Et on sait que ses disciples n'ont pas été trop veillants et vieillants. Ils n'ont pas prié avec le Seigneur. Dans Luc 22, 44, la Bible dit, « Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. » L'angoisse à un extrême que physiquement, il s'est passé des choses. Mais la bataille était pour nous. Et j'aimerais vous lire un psaume ou une partie d'un psaume qui a été de David, qui a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, avant la crucifixion. Et il arrive qu'il y a des Juifs qui n'ont pas officiellement, ouvertement accepté le Messie, mais il y a de plus en plus qui le font. Il y a des Juifs messianiques, évidemment. Et le Seigneur va se révéler bientôt à son peuple juif, magistralement. Ils vont savoir que c'est lui le Christ. Ils vont savoir que c'est lui le Messie. Ça s'en vient, enfant de Dieu, ça s'en vient, je vous le dis, là, ça se prépare et on le voit devant nos yeux. Mais j'aimerais vous lire un passage dans les psaumes, le psaume 22. C'est incroyable. Il y a des Juifs qui ont, leurs yeux ont été ouverts en voyant cela. Je ne pense pas de vous lire tout le chapitre. J'aimerais bien parce que c'est un passage prophétique. Ça prophétise, il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, ça nous disait exactement ce qui s'est passé. Combien savent que Dieu connaisse toutes choses? Du commencement jusqu'à la fin. Dieu connaît toutes choses, même dans notre vie. Le verset premier dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. » On parle de Jésus-Christ ici, prophétiquement. « Pourtant, tu es le Saint. » Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi s'est confié nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommandent ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi, les taureaux de Bazan m'environnent. Ils mouvent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rougit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Regardez, pensez-y un instant. Ça, c'est décrit, le prophète, 1000 ans avant Jésus-Christ, décrivait l'état de Jésus-Christ. Et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile. Et ma langue s'attache à mon palais. Et tu me réduis à la poussière de la mort. Car ces chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Tu es ma force. Viens en hâte à mon secours, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens, sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du bouffle, et je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Je pense que je laisse à tout le chapitre. Pensez-y un instant. Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa sagesse, dans son amour, dans tout ce qu'il voulait pour l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça de cette façon? C'est parce que c'était selon sa volonté. C'était selon le plan de Dieu. Et vous savez, l'homme peut penser ce qu'il veut de la crucifixion, de la mort de Jésus-Christ et de la résurrection. On va toucher ça juste dans quelques instants. L'homme peut penser ce qu'il veut, il peut analyser cela, c'est une bonne chose, bon. Mais ce n'est pas ce que l'homme pense, c'est ce que Dieu a fait. Dieu met le pouvoir dans le sacrifice de Jésus-Christ. Il fallait qu'il y ait un grand prix pour nous racheter. Ce n'est pas juste « fais ton petit possible et on verra ». Non, non, il a fait un plan depuis l'éternité, c'était donner de son meilleur. Dieu vient lui-même et il donne ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est de Dieu, celui qui nous a créés. Imaginez-vous, quand le Seigneur était sur la croix, il avait de la difficulté à respirer, bien, c'était lui qui a donné le respire de l'homme aussi. C'est lui qui a tout formé, c'est lui qui a tout créé. Et voilà ce que Dieu a fait pour nous. Pourquoi est-ce qu'il a tout fait cela? Eh bien, j'ai un passage dans Ésaïe 53, un passage béni, un passage qui parle du Messie, un passage évidemment prophétique écrit 600, 700 ans avant Jésus-Christ. Et voilà ce que ça dit de lui. Et ça explique le pourquoi. Et je n'écoute pas ce que la religion dit concernant la mort de Jésus-Christ, parce que c'est juste comme une coutume, c'est les mœurs. Et ça n'a aucun sentiment, ça ne touche pas personne. C'est « ah oui, on a entendu ça ». Mais ce n'est pas ce qu'eux disent concernant la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus. C'est ce que Jésus dit lui-même, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et on s'attache à cela. Enfant de Dieu, l'Évangile, c'est la venue de Jésus-Christ, c'est la mort, la crucifixion de Jésus-Christ et ça, la résurrection. Si vous sortez en dehors de cela, si vous avez besoin de quelque chose pour vous donner du pep, quelque chose de nouveau, bien, vous êtes sur un mauvais chemin. Si cela ne vous touche pas, si cela ne dirige pas votre vie, si ce n'est pas le fondement de notre foi, ce que Jésus a fait pour nous, eh bien, vous misez à côté, vous êtes à côté. Et je ne pense pas que vous êtes à côté, mais je vous avertis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de quelque chose pour booster au ciel dimanche matin, enfin, mercredi, enfin. Et puis, on a besoin du soutien du Seigneur. Mais ce qui nous garde solide, c'est notre foi dans ce que lui nous a fait. Ce n'est pas nous, c'est lui. Nos yeux sont tournés vers lui. Et quand on est tourné vers lui, on est rayonnant de joie, dit la parole de Dieu. On est rempli de gratitude. Si on se regarde nous autres-mêmes, bien, on cale. On est comme Pierre. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Mais quand on regarde le Seigneur, on est renouvelé à l'image de Dieu et on voit sa grandeur. Et on veut partager ça aussi. Ésaïe 53, le temps passe. Ce prophète, il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? On dirait qu'il il vit aujourd'hui, quoi. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Au temps de Jésus-Christ, ils se moquaient et crachaient sur le Seigneur. Ils ont fouetté à mort quasiment notre cher Sauveur. Ils ne reconnaissaient pas qui c'était. Ça fait qu'il faut se demander pourquoi. C'est quoi leur raisonnement? Eh bien, Ésaïe nous donne leur raisonnement. Ésaïe explique le plan de Dieu, ce qui est dans le cœur de Dieu. Allons plus loin. Verset 2, en parlant toujours de Jésus. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Jésus, un enfant, un bébé. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. En parlant de Jésus, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dénié, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et là, verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Voilà. Puni, frappé de Dieu et humilié, mais, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Combien? Une bonne partie? Tous! Tous sont perdus. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et regardez, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. De nous tous, il a été maltraité et opprimé. Regardez. Et il n'a point ouvert la bouche. Si quelqu'un aurait pu condamner, pointer le doigt, c'était le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit un mot pour vous et pour moi. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a point ouvert la bouche. Et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et la question revient. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. C'est le Nouveau Testament, ça. Les détails sont dans le Nouveau Testament. Quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans la bouche, regardez verset 10. On ne conteste pas avec Dieu. On accepte, vous savez, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il a plu à l'Éternel. Il a livré sa vie en sacrifice pour nos péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, probablement la résurrection. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Et le verset 11, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. » Fait que, enfant de Dieu, écoutez, Dieu le Père, quand il voyait ça, le sacrifice, c'est pas un accident, c'est pas un don, c'est un rendez-vous divin. Quand Dieu lui-même a vu le procédé, ce qui s'est passé, Et le fait que le péché, vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, c'est qu'il y avait un animal qui devait mourir. Et à un moment donné, le prêtre imposait les mains. Et tous les péchés du peuple ou de la personne étaient transmis à l'agneau innocent. C'est ce qui s'est passé ici, là. Les péchés du monde entier, vos péchés, ont été, ou le Seigneur veut que vos péchés soient transmis à Jésus-Christ. Dieu, en voyant cela, l'œuvre qui a été accomplie, il fallait que Dieu soit satisfait. Ce n'est pas les hommes, pas l'Église. Il fallait que la justice divine, l'amour de Dieu, l'œuvre rédemptrice de Christ, et soit que ça soit achevé selon ce que Dieu exigeait, selon ce que Dieu voulait, et tout était parfait en son Fils Jésus-Christ. Quand il s'est donné, quand il s'est crucifié, il dit « ses regards étaient rassasiés ». Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'âmes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été fait au nombre des malfaiteurs, qu'il a porté les péchés de beaucoup d'âmes et qu'il a intercédé pour les coupables. On ne peut pas... Oui. Hallelujah. Hallelujah à l'agneau de Dieu. Si je pouvais chanter, il me semble que je chanterais ça. Hallelujah à l'agneau de Dieu. Le Seigneur a tout fait. Mais ce n'est pas fini. Regardez Matthieu. On va viser la fin ici. Matthieu 28. Parce qu'on ne peut pas arrêter juste là, mais on va arrêter le plus tôt possible. Matthieu 28, verset 1er. Voilà ce qui s'est arrangé, ce qui s'est fait, ce qui s'est fait après. Matthieu 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, là où ils ont mis Jésus. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. » Il est ressuscité, amen, comme il avait dit. Alléluia. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Et on voit. Plus loin, Jésus donnait des commandements, enfin, d'autres choses, mais nous voulons juste souligner le fait, évidemment, et le Seigneur veut que nous comprenions tous vraiment ce que le Seigneur a fait pour nous, il est ressuscité. Il y a quelques années, ça fait bien des années maintenant, je suis allé en Israël, et puis finalement, je suis allé trois fois, j'ai eu ce privilège, mais je suis allé... dans le jardin où Jésus n'est plus, dans le tombeau où Jésus n'est plus. Et il y a eu un passage, il y avait comme un passage écrit sur un mur. Et quand j'ai vu ce passage, je me suis réjoui dans le cœur parce que j'ai regardé là-dedans, comme tous les touristes d'ailleurs, et j'ai vu un passage qui a été affiché. Et voilà ce que ça dit. Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Ce s'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, tout est fini. Jésus est menteur, si c'est le cas. Ses apôtres, enfin, finalement, j'aimerais vous lire un passage, comment Paul a décrit ça, comment Paul a décrit ce que c'est si Jésus n'est pas ressuscité. 1 Corinthiens, puis on achève. 1 Corinthiens, verset 15, voilà ce que Paul dit. Il dit, « Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous l'avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Jésus, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ, là, il répète, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. C'est clair, c'est aussi simple que ça, c'est A ou B. Voilà. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Jésus-Christ sont perdus, si Christ n'est pas ressuscité. Vous savez, et puis là, il donne une liste de toutes les personnes qui ont vu Jésus-Christ, même 500 personnes à la fois. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus, là, parce que ceux qui étaient là, quand ils ont vu, ils étaient déprimés, tout était fini. Mais quand ils ont vu Jésus, Thomas avance tes mains. Quand les autres, même l'apôtre Paul, enfin, quand ils ont compris que Jésus était vivant, laissez-moi vous dire, là, on ne meurt pas pour un mensonge. Ils ont vu que Jésus, et puis il n'y avait rien qui pouvait les arrêter. Jésus est vivant, il est ressuscité. Et enfant de Dieu, j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus est vivant. Il est vivant dans votre vie. Il n'y a rien, il est vivant. Il vous connaît, il vous relève. Et il a un plan merveilleux pour nous. Et le Seigneur est vivant. De toute façon, quand quelqu'un veut discréditer la foi chrétienne, savez-vous ce qu'ils vont attaquer? Les intellectuels, les grands savants. Savez-vous ce qu'ils vont attaquer? La résurrection. Parce que si vous touchez à cela, si ça c'est faux, le château de cartes tombe. Paul dit, on est des faux témoins. Il dit, vous êtes encore dans vos péchés. Mais le fait que Jésus est ressuscité veut dire, et je l'ai dit il y a quelque temps, Seigneur, il est le Messie. Il est le sacrifice pour le péché du monde entier. Tous ceux qui le croient, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui reçoivent le Seigneur, il est le sacrifice. Et si... un pasteur a dit ceci, si Jésus est ressuscité, c'est pasteur Tim Keller, si quelqu'un vous connaissez, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors tu dois accepter tout ce qu'il dit. Si Jésus est vraiment ressuscité, et si Jésus n'est pas ressuscité, écoute, on a la religion après cela. On prépare quelque chose pour avoir des bons sentiments, bon citoyen, bon ceci, bon cela. Et c'est bon à rien. Enfin, en passant. Mais quand on a les Écritures, puis juste une autre chose que je veux dire, c'est que comment est-ce qu'on devient disciple de Christ? Vous savez, il y a des cours, les gens qui se donnent comment devenir disciple de Christ, puis il faut sauter, il faut tourner, il faut apprendre des passages par cœur, il faut faire ceci, il faut faire cela, danser sur un pied, danser sur l'autre. Devenir disciple de Christ, là, c'est que lisez ce qu'il nous dit, crois-le, mets-le en pratique, et tu seras disciple de Jésus-Christ. Alléluia! Et on devient disciple, et je veux, puis vous voulez aussi devenir disciple. Je termine, oui, merci Seigneur, je termine. Le chant, je ne le chanterai pas. Barrez les portes, là, je le chante. Because he lives, I can face tomorrow. Puis enfant de Dieu, parce que Jésus vit, tu peux faire face à ce qui est devant vous présentement. Et moi, je peux aussi. Et vous savez, dans la vie, bien souvent, on est obligé de venir au Seigneur et s'appuyer fortement sur le Seigneur. Parce qu'il y a seulement des choses. Et le Seigneur veut qu'on apprenne. Il veut qu'on le connaisse. Et c'est dans ce moment, ces moments-là. L'éternité est garantie parce que le Seigneur est vivant. Il est à la droite de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va revenir. Il va revenir chercher son épouse. Le Seigneur est venu une fois. Combien de fois je dis ça? Il est venu une fois pour pouvoir venir une deuxième fois. Il me semble que les chrétiens, pas vous évidemment, mais il y a des chrétiens qui ont oublié cela. Ce n'est pas ici-bas le paradis. Si vous pensez que c'est le paradis à la télévision, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas. Ça se ferme. Ça se prépare. Le retour du Seigneur. Enfant de Dieu, le Seigneur revient, il prépare. Et nous aussi, il prépare nos cœurs. Je veux que mon cœur soit préparé à recevoir quand il vient. Hosanna! Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. Il viendra, mais cette fois-ci, il ne viendra pas comme un petit bébé. Cette fois-ci, il viendra comme le lion de la tribu de Judas. Il viendra comme le Seigneur des Seigneurs. Et moi, je vais l'acclamer parce que je l'attends. Levons-nous. On peut rester ici toute la journée. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, my. Alléluia. Je ne sais pas si tous les musiciens sont ici. Il me semble qu'on ne peut pas juste se quitter comme ça. Est-ce que tous les musiciens sont ici? Venez, je vous invite formellement de venir. Et c'est un des deux chants. Il y a deux chants que... Il y a un qui dit « Je crois » et le dernier était très beau aussi. Et on va vous laisser le temps de vous dépoumoner et puis de respirer la présence du Seigneur. Hein? Hallelujah.